Voici une question dont la réponse vous donnera le moyen d'avoir une vie transformée. Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur cette terre? La parole de Dieu va nous répondre avec clarté et simplicité, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. C'est tellement intéressant de suivre les apôtres à travers les enseignements qu'on reçoit dans le livre des Actes. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Est-ce que l'homme a le pouvoir de transformer son cœur lui-même? De quoi l'Église a-t-elle besoin encore plus que les beaux bâtiments et les nombreux programmes? De quelle manière devons-nous lire la Bible? Si la nation d'Israël s'était tournée vers Dieu en voyant les miracles qu'il accomplissait par les apôtres, y a-t-il des prophéties qui se seraient accomplies pour eux à ce moment-là? Si la nation d'Israël avait accepté le Seigneur Jésus au temps des apôtres, serait-il revenu? Est-ce qu'il y a un salut universel? Quel était le but de la venue du Seigneur Jésus? Pourquoi y a-t-il tant de souffrances et d'injustices dans le monde? Restez avec nous. Le pasteur et Jean Joly est sur le point de nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, on entre dans ta présence. On est conscient que tu es là et que tu veux nous enseigner, que tu veux nous faire comprendre ta parole. Alors parle-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs à bien recevoir ce que tu as à nous enseigner. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Nous sommes rendus au chapitre 3 du livre des Actes, et nous nous trouvons toujours dans la première section du livre, celle qui couvre la période de la formation de l'Église à Jérusalem. Le Seigneur Jésus est à l'œuvre par le Saint-Esprit qui remplit les apôtres, afin qu'ils puissent accomplir leur mission. Nous avons vu la naissance de l'Église le jour de la Pentecôte, un événement qui ne pourra jamais se reproduire. L'Église est née, car le Saint-Esprit habite maintenant dans les croyants. Il les remplit de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, et il leur donne la puissance nécessaire pour marcher dans l'obéissance et pour servir Dieu. Tout comme vous et moi ne pouvons pas reproduire la naissance de Jésus à Bethléem, de même, nous ne pouvons pas reproduire le jour de la Pentecôte. Cependant, nous avons toujours besoin de la puissance du Saint-Esprit. Louons le Seigneur que l'Esprit soit toujours avec l'Église, qu'il convainc le monde de péché et qu'il restreint le mal. Nous n'avons pas besoin de chercher l'Esprit, car il habite chaque personne qui croit au Seigneur Jésus. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous traiterons de la guérison d'un boiteux de naissance et nous examinerons le deuxième discours de Pierre. Chers amis, débutons notre lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était l'heure du sacrifice du soir, alors qu'un sacrificateur offrait de l'encens avec des prières. Dans le premier chapitre de Luc, nous avons vu que Zacharie accomplissait ce rite lorsque l'ange lui est apparu. Il était à l'autel des parfums et priait lorsque l'ange est venu lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Donc, il devait y avoir beaucoup d'hommes pieux qui se rendaient au temple à cette heure-là, en même temps que Pierre et Jean. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. L'homme peut construire de très belles choses, mais il ne peut transformer son cœur. Cet homme était boiteux depuis sa naissance. Quelqu'un l'amenait au temple chaque jour afin qu'il puisse mendier. on le déposa à la porte du temple appelée Bel. Il y avait tout un contraste entre l'homme et le lieu où il se trouvait. L'homme peut construire de très belles choses, mais il ne peut transformer ou changer son cœur. Tout être humain peut améliorer son apparence en se lavant, en se coiffant et en se couvrant de beaux vêtements. Cependant, il ne peut pas changer sa vieille nature. Le boiteux vivait des eaux mondes qu'il recevait. Acte 3, chapitre 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Après le jour de la Pentecôte, Pierre et Jean allaient toujours au temple pour y prier. Tous les croyants à Jérusalem devaient être des Israélites ou des prosélytes, des gens qui fréquentent les lieux de culte ou de religion. Ils fréquentaient toujours le temple pour y prier. Le mendiant espérait que Pierre et Jean pourraient lui donner au moins une pièce de monnaie. Versets 4 et 5. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Le boiteux s'attendait à recevoir une pièce de monnaie. Une surprise l'attendait. Versets 6 et 7. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. La puissance et les résultats proviennent de l'Esprit de Dieu. Les apôtres et la jeune Église naissante s'appuyaient sur le Saint-Esprit. Personne n'était riche, et l'Église n'avait pas de biens à cette époque, mais la puissance de l'Esprit n'était pas entravée par le péché et la tiédeur de l'Église. Ce qu'il nous faut, c'est marcher avec Dieu, non de beaux bâtiments et de nombreux programmes. La puissance et les résultats proviennent de l'Esprit de Dieu. Notez l'attention que prête Luc, l'auteur du livre des Actes, aux détails médicaux. Il est le seul évangéliste à donner de telles précisions, car il était médecin. Nous savons qu'il avait une faiblesse dans ses pieds et ses chevilles. Verset 8. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mes amis, notez le mot « saut » et le mot « sauter » dans ce verset. Nous sommes dans un chapitre très intéressant. L'apôtre Pierre va de nouveau et une dernière fois offrir le royaume à la nation d'Israël. C'était possible car l'Église était encore formée uniquement d'Israélites. Aucun païen n'est encore converti. Plus tard, l'Église se répandra aux extrémités de la terre, mais maintenant, elle est encore restreinte aux Israélites et à la ville de Jérusalem. Certains hyper-dispensationalistes affirment que cette période est une période dispensation. Cependant, ce n'est pas le cas. C'est une période de transition, mais elle fait partie de la dispensation de l'Église. Le Seigneur a dit que l'Église commencerait à Jérusalem pour ensuite aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le royaume est offert à Israël une autre fois. C'est la dernière occasion qu'Israël aura d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son roi. Quels seront les signes qui permettront d'identifier le royaume? Les boiteux sauteront sur leurs pieds lorsque le royaume sera établi. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Citation du prophète Ésaïe, chapitre 35, verset 6. Les Israélites qui se rendaient au temple ce jour-là furent dans l'étonnement en voyant le boiteux marcher et sauter de joie. Ils savaient que c'était peut-être l'arrivée du royaume. Le Messie avait été crucifié, il était ressuscité des morts, élevé au ciel et assis à la droite de Dieu. S'ils l'acceptaient, il reviendrait. versets 9 et 10. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Les gens voyaient l'homme et ils le reconnaissaient. Ils ont compris la signification du miracle. De nombreuses personnes aujourd'hui ne la comprennent pas. Verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Est-ce que c'est l'instauration du royaume? Des choses exceptionnelles s'étaient passées à Jérusalem au cours des dernières semaines. La foule avait été témoin de la crucifixion de Jésus. Les disciples ont vu le Seigneur Jésus ressuscité, et ils furent témoins de son ascension. La foule fut aussi témoin du jour de la Pentecôte. Les gens sont donc étonnés en voyant le boiteux guéri. Que se passe-t-il ? Verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Pierre s'adresse aux Israélites de Jérusalem, pas à toutes les nations. Ces événements se passent pendant la période au cours de laquelle l'Église se trouvait à Jérusalem seulement. C'est une période de transition. Il faut s'en rappeler. L'Église ne s'est pas encore répandue à d'autres régions. L'Évangile n'est pas encore prêché en Samarie et chez les nations voisines. J'aimerais vous dire quelque chose avec douceur. Lorsque vous lisez la Bible, il faut le faire avec le même bon sens que vous utilisez en lisant tout autre livre. La Bible est la parole de Dieu, mais elle est rédigée afin d'être lue avec notre simple bon sens. Elle s'adresse à des sujets qui nous touchent et le texte est fait pour être compris. Pierre s'assure d'expliquer à la foule que le miracle ne fut pas accompli par sa propre puissance. Il ramène ses auditeurs juifs à l'Ancien Testament. Il va leur dire que s'ils ne se tournent pas vers Dieu, les prophéties qu'ils connaissent s'accompliront. Écoutez quelques-unes de ces prophéties. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie, chapitre 12, verset 10. C'est une prophétie dont il verrait l'accomplissement s'il se tournait vers lui. Elle ne fut pas accomplie car la nation d'Israël n'a pas reçu le Seigneur Jésus lorsqu'il vint vers eux. Ils ne se sont pas repentis pour venir à Jésus. Pierre va les inviter à venir à Jésus et ils vont refuser. La prophétie citée n'est pas encore accomplie, mais elle le sera un jour. Ézéchiel a aussi prophétisé au sujet du royaume. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Ézéchiel, chapitre 36, versets 27 et 28. Notez le 12e chapitre du prophète Ésaïe. Il contient seulement 6 versets, mais il traite de l'adoration pendant la période du royaume. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. » Ésaïe, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous avons aussi mentionné Ésaïe, chapitre 35, verset 6, qui dit que le boiteux sautera comme un cerf. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe, chapitre 35, verset 10. Les chefs religieux et les juifs auraient dû percevoir que le boiteux était un exemple de ce que Dieu pouvait et voulait faire pour la nation. Si la nation s'était tournée vers Dieu, celui-ci aurait accompli toutes ses prophéties. Versets 13 à 15. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Encore une fois, Pierre parle de la résurrection dans son discours. Pierre et Paul ont mentionné la résurrection dans tout leur sermon du livre des Actes. Malheureusement, aujourd'hui, le sujet est rarement enseigné dans certaines églises. Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. En fait, ce que Pierre dit, c'est « Ne voyez-vous pas cet homme qui était boiteux sauter de joie? C'est ce qu'on fera dans le royaume. Désirez-vous le retour du Messie? Voulez-vous le recevoir? » Quelle offre, quelle invitation. Versets 17 et 18. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Quelle est votre réaction face à la parole de Dieu? Leur participation à la crucifixion demande qu'ils réagissent. Ils doivent maintenant se repentir et se convertir. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont entendu ce message. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Le prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 25. Écoutez l'exhortation de Pierre, versets 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Si la nation avait accepté le Seigneur Jésus, serait-il revenu? La réponse est oui. Pierre dit que oui. Quel aurait été le plan de Dieu par la suite? Nous ne le saurons jamais. Seul Dieu sait ce qu'il aurait fait. Nous pouvons nous poser de nombreuses questions avec des « si ». Tout ce que nous pouvons dire, c'est que la nation n'a pas profité de cette dernière occasion et qu'elle n'a pas accepté le Seigneur Jésus. Toute réponse à la question n'est que de la spéculation. Versets 20 et 21. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Il n'y a pas de salut universel. Certaines personnes se servent de ce verset pour enseigner que tous seront sauvés un jour. Elles s'arrêtent sur l'expression du rétablissement de toutes choses. À quoi est-ce que Pierre fait allusion en parlant de toutes choses? Qu'est-ce qui sera rétabli? Philippiens, chapitre 3, verset 8, dit « Et même je regarde toutes choses comme une perte. Est-ce qu'il parlait de tout ce qui se trouve dans l'univers? » La suite du texte précise par ce qu'il entend par toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Les prophètes parlaient de la restauration d'Israël. aucune prophétie ne parle de la conversion et de la restauration des méchants qui sont morts. Ce sont l'accomplissement des promesses à l'égard d'Israël. Versets 22 et 23. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » La nation d'Israël était sur le point d'être jugée dans quelques années. En l'an 70, le général Titus a détruit Jérusalem. Selon certaines sources historiques, environ 1 million de personnes auraient été tuées et les survivants furent dispersés et vendus comme esclaves dans l'Empire romain. La nation fut jugée sévèrement. Versets 24 à 26. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Les Israélites ont eu une dernière occasion de recevoir le Messie et ils ne l'ont pas prise. Parce qu'ils l'ont rejeté, Dieu va susciter l'apôtre Paul pour proclamer l'Évangile chez les païens. Nous ne pouvons pas dire quelle aurait été la tournure des événements s'ils avaient accepté le Seigneur Jésus, mais ils ne l'ont pas fait. Nous ne pouvons que nous perdre en conjecture. Dieu n'est jamais surpris par ce que les hommes font, et il accomplit toujours son plan. La guérison du boiteux soulève quelques points de réflexion. Premièrement, notez que ce boiteux s'attendait à recevoir une pièce d'argent. En fait, il a reçu au-delà de ce qu'il espérait. Plutôt qu'une pièce de monnaie qui serait dépensée en une journée, il reçut une guérison qui lui permettait de travailler désormais. Combien plus Dieu n'est-il pas disposé à bénir les siens? Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Deuxièmement, le boiteux n'avait pas vraiment la foi pour être guéri. Ce n'est pas une guérison qu'il a demandé à Pierre et à Jean, mais une aumône. Dieu a guéri le boiteux par sa puissance en réponse à la foi de Pierre. Certains guérisseurs, lorsqu'une personne se présente à eux et n'est pas guérie, expliquent le fait en affirmant qu'elle n'avait pas la foi. Se pourrait-il que le problème ne soit pas la foi du malade ou de l'infirme? L'intercesseur ne doit-il pas avoir la foi? Troisièmement, la guérison fut immédiate. Lorsque le Seigneur Jésus et les apôtres faisaient des guérisons, celle-ci était immédiate et évidente. Elle authentifiait le message de Jésus et des apôtres. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux chapitre 2, verset 4. Christ est mort pour nous libérer du péché. C'est à cause du péché et de la méchanceté du cœur humain qu'il y a tant de souffrance et d'injustice dans notre monde. Et voilà pourquoi Jésus est venu, pour nous en délivrer. Prochaine émission, Actes chapitre 4, versets 1 à 37.
Merci, Régent. Christ est mort pour nous libérer du péché. Mes amis, réalisez-vous à quel point il est important de réaliser qu'on est tous pécheurs, qu'on est tous indignes d'aller passer l'éternité dans la présence de Dieu. Les apôtres ont prêché ça. Et le même message est prêché aujourd'hui dans nos temps modernes. Il y en a peut-être parmi vous qui trouvez qu'on parle souvent du péché au cours de nos émissions. Régent en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et je sais que je dis souvent aux gens combien il est nécessaire de se reconnaître pécheur de se repentir, de croire au sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix et de l'accepter comme sauveur et seigneur pour être sauvé. Mais il est impossible de trouver un autre moyen d'aller au ciel. Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Il l'a dit lui-même quand il est venu sur la terre. Dernièrement, je parlais avec une femme avec qui j'ai souvent l'occasion de parler de l'amour de Dieu, de la vie éternelle et du moyen de l'obtenir. Il y a des croyants dans la famille de cette femme. Elle a donc souvent l'opportunité d'entendre le plan de Dieu pour elle, pour qu'elle puisse être sauvée, pour qu'elle ait un jour l'assurance d'aller au ciel quand elle mourra. Mais la dernière fois que j'ai rencontré cette femme, je suis revenue chez moi un peu triste de ce qu'elle ne soit pas encore convertie, qu'elle n'ait pas encore accepté Jésus comme sauveur et seigneur. Mais personne ne peut la convaincre. Il y a juste Dieu qui peut le faire. Et j'ai constaté qu'elle a besoin de se reconnaître pécheresse, de réaliser combien Dieu déteste le péché et que c'est justement le péché qui met une séparation entre lui et elle. Je prie Dieu qu'il convainque cette femme de voir l'horreur du péché et combien elle a besoin d'être pardonnée, tout comme je l'ai été il y a plusieurs années. Je me rappelle le moment où j'ai vu que j'étais une pécheresse perdue, qui avait besoin du pardon de Dieu. Et quelle joie pour moi quand j'ai demandé au Seigneur de me pardonner, de me sauver, de me donner la vie éternelle. En un instant, je n'étais plus la même. J'étais née de nouveau. J'étais une créature nouvelle. L'ancienne moi, si je peux m'exprimer ainsi, se plaisait dans le péché, mais elle était malheureuse. Et la nouvelle moi détestait soudain le péché. Et en plus, je venais de recevoir l'Esprit de Dieu, celui qui me donne la force de me détourner du péché, d'obéir à Dieu et de vivre dans sa paix. Mon ami, veux-tu cette paix que Dieu donne? Repens-toi et crois à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour payer la dette de ton péché en entier. Et maintenant, il est vivant. Et en ce moment, à travers moi, il s'adresse à toi. Il s'invite chez toi. Ouvre ton cœur à Jésus. Repens-toi. Détourne-toi de tout ce qui est péché dans ta vie. Demande à Jésus de te sauver. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Il va le faire, comme il l'a fait pour moi. Demande-lui maintenant. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. C'est si simple. C'est facile de reconnaître qu'on est un pécheur. On est tous pécheurs. Demande à Jésus de te pardonner. Demande-lui de te donner ce beau cadeau, le cadeau de la vie éternelle, et il va le faire certainement.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais savoir, j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité.
Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. À demain.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.